Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
C'est un petit signe d'espoir pour la Syrie. Un accord inédit a été conclu entre le régime et les rebelles pour leur retrait de la vieille ville de Homs. Mais à l'est et au nord du pays, les combats continuent. Témoignage dès le début de ce magazine de Mgr Jean Barre, l'évêque melkite d'Alep. Vous entendrez aussi Mgr Chomali, le vicaire patriarcal à Jérusalem. Il réagit aux récentes déclarations des autorités israéliennes concernant les actes racistes anti-arabes. Dans cette édition également, entretien avec le président de la conférence des évêques du Burundi qui s'attarde sur le climat actuel dans le pays et gros plan sur les élections de ce mercredi en Afrique du Sud. Bienvenue dans ce magazine. Les armes se sont tuées à Homs, dans le centre de la Syrie, pour la première fois en 2 ans. Les rebelles et les autorités syriennes ont accepté une trêve pour le retrait de la vieille ville, assiégée par l'armée régulière et presque entièrement détruite. En revanche, plus au nord, les affrontements entre l'armée et les rebelles font toujours rage et la journée de lundi était particulièrement meurtrière, en particulier dans la province nord-ouest d'Idlib, où au moins 30 militaires loyalistes syriens ont été tués. Des combats qui opposent également des groupes djihadistes rivaux dans l'est de la Syrie, mais aussi aux abords d'Alep, la grande ville du nord, où le front al-Nosra se bat avec le front islamique en Irak et au Levant, tous deux cherchant à l'emporter sur les forces de l'armée syrienne libre et sur les troupes de Bachar al-Assad. Marie Duhamel a joint ce lundi Mgr Jean-Clément Jean Barre, l'évêque melkite d'Alep.
Nous avons un grand problème, c'est la présence des fondamentalistes, des rebelles dans la vieille ville d'Alep. Maintenant, les fondamentalistes sont dans des zones qui sont un peu coupées de la ville où vivent les citadins. Par exemple, les quartiers où nous sommes, où vivent des musulmans aussi. Il n'y a pas de fondamentalistes. Mais c'est dans la banlieue, les banlieues et la périphérie de la ville, il y a des fondamentalistes. Alors, nous subissons les conséquences des combats parce qu'il y a beaucoup de mortiers, de projectiles qui causent la mort de beaucoup d'innocents et beaucoup de civils. Malheureusement.
Et ces fondamentalistes dans les banlieues, est-ce que là vous avez des échos sur ce qui s'y passe, sur comment est-ce qu'ils essayent de faire appliquer leurs lois?
Nous avons des nouvelles de ce genre. Nous avons vu par exemple dans une ville qui est à 120-140 km d'Alep, à Raqqa, ils ont un tribunal coranique qui a décrété la crucifixion d'un certain nombre de personnes. À Alep aussi, ils essayent d'appliquer la loi musulmane fondamentaliste et qui exclut toute possibilité d'être différent. Et c'est ça qui est préoccupant. Autrement, nous n'avons pas de problème de vivre avec les musulmans. Nous vivons avec eux depuis 1400 ans.
D'ailleurs, il y a des musulmans qui, eux aussi, ont été crucifiés.
Oui, effectivement, à Raqqa. Mais c'est ça, le malheur, c'est qu'il y a des étrangers qui sont là, qui n'ont aucune idée de ce qu'est vraiment l'islam, et qui ne savent même pas lire l'arabe, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas lu le Coran. Le Coran leur a été présenté par des ulémas chers qui, eux, peut-être, eux aussi ne connaissent pas l'arabe et qui ont pris leur enseignement à certains maîtres de fondamentalisme qui les orientent. Et c'est ça le malheur, c'est qu'ils ont faussé l'islam et le Coran. Et le malheur, c'est que la majorité de ceux qui font la guerre, des rebelles, sont des étrangers, des chichans, des turcs, des gens qui viennent d'Afghanistan, un peu partout. Il y a un grand nombre de pays où le recrutement se fait.
On a l'impression, comme ça, vu de l'étranger, qu'à Alep, en ce moment, les seules forces en présence sont des fondamentalistes et qui se font la guerre sont des fondamentalistes islamistes. Est-ce qu'il y a encore une présence aussi de l'armée de Bachar el-Assad?
L'armée gouvernementale est là, justement. Autrement, nous aurions été envahis dans toute la ville. En fait, ce qu'était la ville il y a 40 ans, 30 ans, est entièrement sous le contrôle du gouvernement.
Le pape, à plusieurs reprises, a appelé toutes les parties à dialoguer, à trouver une solution négociée. Là, on a l'impression que c'est tellement morcelé que chaque ville a un sort, une histoire bien particulière. Aujourd'hui, un accord inédit a été conclu entre le régime et les rebelles pour qu'ils se retirent de la vieille ville de Homs. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce genre de solution qui pourrait finalement garantir un début de paix en Syrie?
Oui, ça peut être ça, mais il faut en même temps une paix globale, une entente globale. Il faut les deux. Il faut que Genève continue pour arriver à une solution, et il faut aussi cela, des ententes partielles là où il y a des tensions et le plus de malheurs que les gens subissent.
Vous n'avez pas l'impression que ça peut provoquer un morcellement du pays?
On a peur de ça, mais je ne pense pas, parce que finalement, tous les gens dans toutes les zones, ils ont besoin les uns des autres. Ils sont reliés à des organismes d'État ou des organismes de services qui sont unifiés. Ils vivent de leur salaire qui viennent du budget national. Bon, bien sûr, il y a des gens qui veulent créer ce morcellement, mais je souhaite que ça n'ait pas lieu, parce qu'autrement, ça finirait par anéantir le pays.
Ça serait la fin de l'identité syrienne?
Oui, l'identité syrienne, mais aussi de la viabilité d'un pays. Ce sera alors là de petits patelins. De toute façon, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Nous espérons quand même que de plus en plus de personnes réalisent que la meilleure solution, c'est la réconciliation, l'entente et la paix. La paix qui est à l'avantage de tout le monde.
Monseigneur Jean-Clément Jambard, l'évêque Melkite d'Alep, un témoignage à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. C'est avec une poigne de fer que les autorités israéliennes entendent lutter contre les actes racistes anti-arabes. Le ministre israélien de la Défense l'a indiqué lundi en dénonçant un phénomène hideux qui n'a aucun rapport avec les valeurs et la morale juive et dont le but est de nuire aux Arabes uniquement parce qu'ils sont arabes. La police israélienne a arrêté plusieurs mineurs soupçonnés d'avoir tagué des graffitis haineux envers les Arabes. Dimanche dernier, la ministre de la Justice, Tzipi Livni, avait déjà réagi, soutenant l'idée de traiter les exactions des colons et extrémistes juifs comme des actes terroristes. Des propos que Mgr William Chomali, le vicaire patriarcal à Jérusalem, a jugés rassurants.
C'est le devoir de l'État d'Israël de réagir contre tous ces malfaiteurs qui commettent depuis 2 ans des actes de vandalisme et aussi qui veulent terroriser les chrétiens et les non-juifs. Donc la réaction de l'État d'Israël est positive et rassurante pour toutes les minorités et pour tous ceux qui ne sont pas juifs. Comment l'État d'Israël devrait agir? L'État sait comment faire. Une fois qu'ils arrêtent un malfaiteur, à travers lui, ils peuvent suivre le même fil et arriver jusqu'à tous les complices. Et dans ce cas-là, ils peuvent dissuader les autres de ne pas répéter. Il faut arriver surtout à la tête de cette organisation terroriste. Il y a ceux qui exécutent et ceux qui ordonnent. Donc quand on tient ceux qui exécutent, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé à la tête, au cerveau opérant, opérateur. Je pense que ça a besoin du temps, mais une fois qu'on a commencé, on va arriver.
Comme la ministre israélienne de la Justice, Tzipi Livni, dimanche, vous qualifiez ces actes de terrorisme.
Tout ce qui est nuire aux autres, c'est du terrorisme, bien entendu. Il faut appeler les choses par leur nom. Terrorisme, ça vient de terreur. Terreur, ça veut dire créer la peur. Ce monde-là a créé une certaine phobie, psychose, peur chez ceux qui ont été menacés. Donc c'est un acte terroriste étymologiquement et réellement.
Alors est-ce que d'après vous les autorités prennent des risques en durcissant le ton?
Dans d'autres pays, chaque fois qu'un État veut combattre le terrorisme de certaines milices, ils doivent payer. Ils doivent payer en ressources humaines. Mais nous prions pour que vraiment il n'y ait plus de réplique de la part de ces malfaiteurs contre des soldats ou contre des policiers ou contre des hommes d'État. Nous ne voudrions pas ça du tout. Nous voudrions que le gouvernement gagne cette lutte, cette bataille, sans perdre de ressources.
Qu'est-ce qu'elle a de nouveau, cette prise de position des autorités?
C'est un crescendo. Voilà. Ils ont déjà dit qu'ils travaillent pour arrêter les malfaiteurs. Une fois, ils ont dit qu'ils veulent utiliser toutes les mesures qu'il faut. Une autre fois, ils ont dit que ce sont des actes racistes, terroristes. Donc aujourd'hui, c'est un progrès dans l'affirmation et la condamnation de ces actes. Ce qui est en soi très très positif.
Mgr Chomali, interrogé par Antonino Gallofaro. En réaction aux derniers actes de vandalisme commis contre les chrétiens en Galilée, le secrétariat général des écoles catholiques en Israël a publié un communiqué dans lequel il condamne fermement ces actes de violence et appelle les autorités civiles à prendre les mesures nécessaires. « Nous avons peur pour nos enfants », peut-on lire dans ce texte, qui invite chaque directeur d'école à adresser une lettre de plainte à la police qui se trouve autour de l'école afin qu'elle assure la protection des élèves. Un hôpital catholique a été frappé par des raids d'avions de combat soudanais dans la région des monts Nouba, dans l'état du Kordofan du Sud, au sud du Soudan. Pour Mgr Makram Max Ghazi, évêque émérite du diocèse soudanais d'El Obeid, il s'agit d'un acte inacceptable contre des civils innocents, une attaque contre le caractère sacré de la vie humaine que nous devons protéger à tout prix. Mgr Ghazi a appelé le président soudanais Omar el-Béchir à garantir la sécurité de l'hôpital. Nous sauvons des vies sans faire de distinction religieuse, tribale ou politique. En ciblant notre hôpital, c'est nos frères musulmans et chrétiens que vous visez, a-t-il déclaré. Il rappelle que la loi internationale exige la protection des civils durant les conflits et dénonce une violation de ce droit humanitaire fondamental. Selon un chirurgien américain travaillant dans l'hôpital Mère de la Miséricorde, plusieurs bombes ont été larguées délibérément sur le bâtiment jeudi et vendredi dernier, ne faisant heureusement qu'un blessé léger et des dommages modérés. L'établissement, le seul de ce type dans cette région, est soutenu par le Secours catholique et Caritas Irlande. Il vient en aide à plus de 150 000 personnes chaque année. Nous en parlions dans notre précédent magazine. Les évêques du Burundi sont actuellement à Rome à l'occasion de leur visite à Limina. Ils ont rencontré le pape François ce lundi, qui les a appelés à prendre toute leur place dans le dialogue social et politique. Depuis plusieurs mois, le Burundi connaît une grave crise sociopolitique, une crise marquée notamment par l'arrestation d'hommes politiques de l'opposition et l'expulsion d'un diplomate de l'ONU. Des tensions qui inquiètent les Nations Unies alors que le pays se prépare à organiser des élections générales en 2015. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adressé le mois dernier une sévère mise en garde au pouvoir burundais en l'appelant à ouvrir l'espace politique. Audrey Radondi a rencontré Mgr Gervais, le président de la Conférence des évêques du Burundi. Il s'attarde sur le climat qui règne actuellement dans le pays en mettant l'accent sur la volonté d'apaisement engagée par les évêques.
À notre regard, c'est toujours celui d'inviter tout le monde à se mettre ensemble. S'il y a des questions, et il doit y avoir toujours des questions dans notre vie sociale et politique, qu'ils se mettent toujours autour d'une table pour régler comme des hommes dignes de leur nom, régler ces problèmes-là. Parce que chaque fois qu'on a la bonne volonté politique, qu'on se met ensemble, qu'on cherche des solutions, ça peut tarder, mais on arrive à trouver des solutions. Et des solutions qui sont trouvées dans ce contexte, ce sont des solutions durables. Nous ne sommes pas vraiment inquiets. Nous pensons qu'il s'agit d'une période simplement qui vient avant les élections et qui est toujours, d'une certaine manière, tendue. Vous savez, nous sommes des personnes d'espérance. Nous espérons qu'il n'y aura pas de conflit.
Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a un besoin encore plus important du rôle de l'Église qui fasse un peu comme ça la médiation entre les différents partis politiques?
En fait, nous ne faisons pas la médiation comme telle. Nous faisons simplement ce que nous devons faire en tant qu'hommes d'Église et personnes de Dieu. Chaque fois que nous voyons une situation qui nous interpelle, nous essayons d'interpeller qui de droit pour que ceux qui ont la gestion du pouvoir puissent être avertis. Si par notre prise de parole, il advient que nous puissions jouer la médiation, tant mieux, parce que nous sommes de l'Église, mais aussi c'est notre nation. Et nous avons le droit de nous exprimer sur ce qui se passe dans notre pays parce que nous sommes des citoyens. Et nous le disons assez régulièrement, chaque fois qu'il y a des problèmes, ils tombent en grande partie sur l'Église. Chaque fois qu'il y a une crise, on voit tout le monde venir dans nos structures d'Église. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train d'être victime alors qu'il n'était même pas impliqué, ça vous fait mal au cœur. Et c'est pour ça que l'Église parle, l'Église parlera. Elle ne demande l'autorisation à personne. Chaque fois qu'elle croit que c'est de son devoir de parler, elle parle et elle parlera.
Monseigneur Gervais au micro d'Audrey Radondi. Sud, plus de 25 millions d'électeurs sont appelés ce mercredi à se rendre aux urnes. Un scrutin général symbolique. Il se tient alors que le pays fête 20 ans de démocratie, 20 ans depuis la chute du régime d'apartheid. L'ANC, ex-parti de Nelson Mandela au pouvoir sans discontinué depuis l'avènement de la démocratie en 1994, est donné grand favori. Si le pays s'est radicalement transformé depuis l'élection du premier président noir, il reste toutefois marqué par de nombreuses inégalités. Des millions de Sud-Africains noirs vivent toujours dans la pauvreté, alors que le taux de chômage ne cesse d'augmenter. La campagne a donc été dominée par les questions économiques. C'est ce que nous explique Raymond Perrier, directeur du Jesuit Institute de Johannesburg.
Le thème le plus important, c'est le thème de l'économie. Ici, les problèmes économiques sont très très grands. Le problème du chômage, on a un niveau de chômage officiellement de plus de 25%, en réalité plus de 30%, sinon 40%. Et donc pour beaucoup de personnes, ce c'est le problème, la menace la plus importante pour le pays.
Ça semble que l'African National Congress, l'ancien parti de Nelson Mandela, va gagner ces élections avec une marge importante parce que l'opposition n'a pas réussi à gagner des voix.
Ah oui, c'est que la majorité des personnes ici votent pour raisons émotionnelles plutôt que rationnelles. Et donc, l'ANC peut se présenter comme le parti de libération, le parti qui a gagné le vote pour la majorité sud-africaine, le parti de Mandela. Et donc, même si après 20 ans de gouvernement, les services ont diminué, l'inégalité a augmenté, les personnes vont continuer à voter pour l'ANC parce que c'est le parti de libération. Point.
Il y a cette année des jeunes qui iront voter pour la première fois. Les nés libres, on les appelle. Quelles pourraient être leurs réactions face à ces élections?
Bon, les nés libres, les jeunes sont les personnes les plus impactées par les problèmes économiques parce que pour eux, sortant de l'école ou sortant de l'université, ils sont en face d'un chômage de plus de 60-70%. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des nés libres ne sont pas enregistrés pour voter. Ils sont tellement désillusionnés des thèmes politiques qu'ils pensent que la politique ne peut pas changer leur vie. Ils ne s'intéressent pas tellement dans les élections.
Des propos recueillis par notre collègue italien Davide Maggiore. Le Sénégal votera lui aussi prochainement des élections locales qui se tiendront en juin prochain. Dans cette perspective, le cardinal Théodore Adrien Sarr a invité au respect et à la promotion de la dignité de tout homme par le travail. L'archevêque de Dakar s'est adressé au candidat le 1er mai dernier, jour de la fête du travail, soulignant qu'admirer Saint-Joseph travailleur invite à intégrer dans toute vision de la politique le respect et la promotion de la dignité de tout homme, en particulier la dignité par le travail et dans le travail. Puisque nous nous préparons à des élections locales et que les esprits et les cœurs commencent à s'échauffer, a-t-il déclaré, nous exhortons tous ceux et celles qui aspirent à des postes de responsabilité dans les communes du pays à inscrire de telles perspectives dans les programmes qu'ils vont présenter aux électeurs. Nous les exhortons évidemment à s'engager à les mettre en pratique s'ils sont élus. c'est la fin de ce magazine. Au nom de toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation, merci de l'avoir suivi.